Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio TerraZen pour l'émission d'Anne-Catherine Sabas consacrée à la psychologie. Je suis Olivier Ravaille qui vais animer l'émission avec Anne-Catherine et serai son intervieweur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Anne-Catherine ou qui prendraient cette émission pour la première fois, je vous rappelle qu'Anne-Catherine est psychothérapeute, elle exerce à Fontenay-sous-Bois et elle consulte sur rendez-vous au 06 08 94 81 46, coordonnées que je vous redonnerai plusieurs fois pendant l'émission. Elle est aussi écrivain, auteur d'une vingtaine de livres, notamment chez Bussière, des petits manuels, entre guillemets, sur la souffrance au travail, triompher de la souffrance au travail, triompher des manipulateurs et libérez-vous par le pardon, notamment, hein, il y a d'autres titres. Notre émission est cyclique. Le premier mardi de chaque mois, elle est consacrée à la psychologie. Et le troisième mardi de chaque mois, c'est-à-dire aujourd'hui, l'émission est consacrée aux rêves. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos rêves, donc en les décrivant si vous souhaitez qu'ils soient commentés par Anne-Catherine, sur terrazenrêve. Tout attaché au singulier, @outlook.fr. TerraZenRêve au singulier, @outlook.fr. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Olivier. Bonsoir à tous et merci à tous ceux qui nous écoutent d'être là, fidèles au poste.
Alors, je vous propose que nous. Alors, ça fait déjà plusieurs émissions qu'on fait sur les rêves, je ne les compte plus. Je vous propose que l'on commence par un thème qui s'impose, un thème un peu générique, mais qui s'impose au début de chaque émission sur le fait de se souvenir de nos rêves. Donc on va consacrer le début de cette émission à ça. Anne-Catherine, tout le monde rêve, et évidemment on a tous connu ce moment où on se réveille le matin et on ne se souvient plus de notre rêve, on dit qu'on a oh, j'ai pas rêvé cette nuit, alors que probablement on a rêvé. Alors est-ce qu'il existe des manières de faciliter le souvenir qu'on a de nos rêves?
Alors la première chose, comme pour d'ailleurs beaucoup de choses, c'est que notre mémoire a besoin d'être entraînée, et elle a besoin aussi de temps pour pouvoir nous produire ou nous reproduire plus exactement tout ce qu'elle garde en réserve, qui a été engrangé pendant les diverses expériences, et en l'occurrence de la nuit. Donc la première chose moi, que j'aurais envie de conseiller, c'est de prendre le temps chaque matin, ou si on se réveille pendant la nuit avec des bribes de souvenirs, prendre le temps de laisser remonter tout ça, consacrer vraiment un espace, c'est un espace un peu intermédiaire entre la veille et le sommeil, où on a besoin de retrouver l'accès à l'inconscient ou ne pas le perdre. Donc 5 minutes peuvent suffire chaque matin, mettez votre réveil un petit peu plus tôt, prenez le temps de laisser revenir les impressions, ça peut être des impressions, des visages, des mots, des sensations, des émotions. Et puis à force de faire ça régulièrement, à un moment donné, le film va commencer à se dérouler. Plus vous aurez l'habitude de le faire, plus des détails arriveront, plus on fait attention à nos rêves, bien sûr, plus ils coopèrent avec nous.
D'accord. Et par exemple, est-ce qu'il y aurait des moyens mémotechniques, une petite technique? Alors il y a les 5 minutes, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez
Alors,
donner à nos auditeurs?
oui, bien sûr, déjà émettre l'intention de se souvenir de ses rêves le soir, c'est vraiment une démarche. Se souvenir de ses rêves, c'est en fait une démarche qui vise à pactiser un petit peu plus avec sa vie intérieure, avec son inconscient, et donc, comment dire, récupérer un accès à ses propres profondeurs. Donc, c'est toute une démarche, c'est toute une intention qui est vraiment d'être d'abord à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui émerge de l'intérieur de soi et de le prendre au sérieux. Souvent, on a dans la journée des intuitions, des perceptions, même parfois des prémonitions. On ne prend pas ça au sérieux parce que ce n'est pas rationnel, on ne comprend pas trop. Mais il suffit déjà d'y faire vraiment attention, de prendre ça au sérieux. Et donc, avant de se coucher, d'avoir l'intention de considérer que ce qui va nous être proposé pendant notre sommeil est quelque chose de très sérieux, même si c'est souvent un langage très bizarre, et donc de se mettre dans cet état de réceptivité. Ça, c'est la première chose. Alors après, il y a en effet des petits moyens mnémotechniques qui fonctionnent pour certains. Je pense au verre d'eau que j'ai déjà cité dans cette émission, avoir un verre d'eau sur sa table de nuit, boire la moitié du verre ou quelques gouttes, hein, si vous avez peur d'avoir besoin de vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes, mais simplement quelques gouttes en émettant vraiment l'intention d'être un petit peu plus conscient, hein. Il y a d'ailleurs des techniques de rêve lucide dont on pourra parler un jour. Là, je m'éloigne un petit peu. Être un peu conscient et au moment de se coucher, donc on fait ça et quand on se réveille, on reprend le même verre et on boit encore quelques gouttes. Alors évidemment, l'eau est en plus un symbole de l'inconscient, donc c'est pas anodin ce que je vous suggère. L'idée étant qu'en rebuvant de cette même eau, on retrouvera l'accès à l'inconscient. C'est comme une programmation, en fait.
D'accord. Donc voilà, il existe des... On peut s'entraîner. Voilà le message que j'ai entendu. On peut s'entraîner à se souvenir de ses rêves. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va s'en souvenir intégralement, j'imagine, mais qu'en tout cas, il y aura des séquences plus marquantes, peut-être, qui vont plus facilement nous revenir, ou en tout cas ne pas nous échapper, si on applique cette technique, 5 minutes de prise de conscience le matin, la technique du verre d'eau que vous venez d'évoquer. Donc merci Anne-Catherine. Alors je vous rappelle que c'est une question que voilà, que je pose en début de chaque émission parce que j'ai voilà, les questions de certains auditeurs reviennent un peu là-dessus quand même. Est-ce qu'on peut se souvenir de ses rêves, quelles techniques il existe, etc. Donc merci d'avoir répondu.
Et je rajoute, c'est vraiment important de prendre nos rêves au sérieux. Nous sommes habitués à avoir des vies et des modes de fonctionnement souvent très rationnels. Nous passons à côté de beaucoup de choses parce que notre inconscient a beaucoup de réponses à nous donner sur beaucoup de sujets. Et pour ça, il a besoin qu'on lui laisse une place. Il a besoin qu'on l'accueille et qu'on apprenne à déchiffrer son langage. Et petit à petit, on va rentrer en plus dans quelque chose de très très poétique qui peut nous aider vraiment à nous diriger dans la vie. Voilà.
Merci. Une question qui revient aussi chez les auditeurs, qui est une question sur les cauchemars. Alors, est-il normal de faire des cauchemars et d'avoir des terreurs nocturnes? Voilà, une des questions que nous pose l'un des auditeurs.
Alors, les terreurs nocturnes, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un terme qu'on emploie pour les enfants, par exemple. Les enfants qui, surtout les jeunes enfants, pardon, qui sont, de par tous les processus d'évolution qu'ils traversent, doivent peu à peu se confronter à toutes les angoisses de la condition humaine, la solitude, par exemple, la mort, etc. Et petit à petit, ils vont traverser toutes ces questions, toutes ces angoisses qui, pour la plupart, sont extrêmement archaïques et qui se manifestent souvent la nuit. Donc ça, c'est pour les terreurs nocturnes. En ce qui concerne les cauchemars, je ne peux pas vraiment répondre à la question est-ce que c'est normal ou pas, parce qu'il faudrait essayer de définir la normalité, ce que je me refuse vraiment à faire. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'un cauchemar est quelque chose qui est déjà très utile, de la même façon que tout processus d'évacuation de quelque chose est utile. Quand on vomit, c'est parce qu'on a besoin de se soulager de quelque chose. Quand on a, enfin, quel que soit, quand on se mouche, quand on éternue, même si sur le moment c'est pas forcément agréable, c'est que le corps a besoin d'expulser quelque chose. Et notre psyché a besoin aussi d'expulser des choses, a besoin de se soulager de conflits, de tensions, de souvenirs, de traumatismes. Et le cauchemar sert à ça, déjà. Après, le cauchemar, là encore, ça serait intéressant de regarder la définition d'un cauchemar, chose que je n'ai jamais faite, je vous l'avoue. Mais un cauchemar, c'est quelque chose qui marque, qui est désagréable, qui fait peur, qui est vraiment très désagréable, qui souvent nous réveille en sursaut, et qui donc attire notre attention sur quelque chose, en général sur un conflit non résolu, une peur. Donc c'est un appel de notre inconscient à aller se pencher sur quelque chose. Donc justement parce que ça nous invite à de la vigilance, ça nous invite à un questionnement, c'est quelque chose d'utile. Moi j'ai l'habitude de dire à mes patients que bien sûr un cauchemar est désagréable, mais qu'il est à prendre justement très au sérieux parce qu'il va amener à la conscience quelque chose qu'on a ou complètement refoulé ou complètement négligé. Et c'est comme si un pan de notre vie, un pan de notre conscience, justement, se rappelait à nous. Ça me fait penser, je vous dis ce qui me vient, la Belle au bois dormant, à ce conte où la méchante sorcière a été oubliée au moment du baptême, et tout à coup elle arrive, elle va jeter une malédiction. En fait, elle a été oubliée, on ne l'a pas prise au sérieux, et du coup elle va se venger. Cauchemar, c'est un peu ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas pris au sérieux, qui tout à coup va s'immiscer parce que y a un déséquilibre dans la psyché, et le déséquilibre, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut que quelque chose puisse s'immiscer. C'est comme quelqu'un qui ouvrirait la porte tout à coup en disant hey, je suis là, faites attention à moi. Hein? Donc c'est quelque chose à vraiment entendre.
Oui, ça me fait penser finalement au début de n'importe quelle démarche de sagesse, où en fait il faut accepter de partir d'où l'on est. C'est pareil dans la vie. Enfin, j'ai cette difficulté. Bah, le premier point, c'est quand même de la reconnaître, même si c'est désagréable. Et c'est un départ qui est plus utile que le fait de ne pas la reconnaître, où là on va passer à côté, on va somatiser ou que sais-je. Et le cauchemar me fait penser, enfin dit comme ça, à la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est. Et comme tel, il a une valeur, enfin voilà, il nous dit quelque chose de nous. Alors je pense que c'est important aussi de ne pas prendre le cauchemar. Pas plus qu'un rêve normal, enfin, dire, un rêve positif, hein, de ne pas le prendre au premier degré, parce que ce qu'il nous dit de nous n'est pas forcément agréable, mais c'est le premier pas vers un mieux-être, c'est au moins de reconnaître son cauchemar et éventuellement de lui demander ce qu'il veut dire.
Absolument.
Et je note que cauchemar est quand même beaucoup associé à la peur. Voilà, quand même, la tonalité du cauchemar, c'est rarement la joie, quand même. Hein, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être autre chose. Bon, enfin, il est souvent question de peur. Ou ça me fait penser aussi à des choses qu'on ne veut pas forcément raconter parce que peut-être on a honte, par exemple. À qui n'est-il pas arrivé d'avoir un rêve que, bon, j'ai pas rêvé parce qu'en fait, il n'a pas tellement envie de le raconter parce que c'est pas, entre guillemets, pas glorieux. Et pourtant, voilà. J'entends bien en vous écoutant que c'est pas le côté glorieux du rêve qui indique si le rêve est utile ou pas.
Non, et puis nos rêves sont à prendre souvent de manière symbolique. Hein, c'est-à-dire que rêver dans un cauchemar ou un rêve d'ailleurs d'être dans une position pas glorieuse peut signifier plein de choses. Et c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre non plus.
Je vous rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas, qui est thérapeute à Fontenay-sous-Bois. Alors, je ne vous ai pas donné son site internet tout à l'heure, je le fais. www.anne-catherine-sabas.com, sur lequel vous trouverez ses coordonnées, des informations, son actualité, et notamment son actualité de demain, puisqu'elle va donner une conférence, alors sur un autre média, et elle sera animatrice aux Journées du Pardon, qui est un séminaire magnifique qui aura lieu du 28 ou 9, je ne me souviens plus, octobre au 3 novembre, donc en fin de semaine prochaine, qui se déroule dans un lieu paradisiaque dans les Vosges, et où Anne-Catherine interviendra et donnera une conférence. Je vous propose, Anne-Catherine, que l'on. Alors, on a reçu plusieurs rêves de la part d'auditeurs, et je vous propose qu'on commence par un premier rêve, pardon, qui nous a été envoyé par Madame D. du sud de la France, hein, c'est comme ça qu'elle s'est présentée. Voici mon rêve, cauchemar, mais selon moi, c'est une vision d'une autre époque. Ça, c'est une vision d'une autre époque. Alors, son rêve est le suivant. Je cours, car il y a eu un massacre. On a massacré mes deux enfants. Je me sens en panique, désespéré. Je cours sur la plage, mais je tombe et je continue à ramper vers la mer, car je sais, je sens qu'une fois dans l'eau, je serai sauvé. Une grosse panique, une idée dans ma tête doit atteindre l'eau. Je me suis réveillé et je n'ai plus pu me rendormir. J'avais peur de revivre ça. Dans la réalité, je n'ai pas d'enfant.
Alors, il y a une première chose dont je voudrais parler. Au début, Madame D, c'est ça,
C'est ça.
dit qu'elle pense que c'est une autre époque.
Alors, je pense que ce qu'elle voulait dire, voici mon rêve cauchemar, mais selon moi, ça, c'est une vision d'une autre époque, à mon avis. Alors, je pense que c'est peut-être le sens de rêve cauchemar, peut-être qu'elle disait, je sais pas, en fait.
Parce
Bon.
que, en tout cas, moi, ça, elle pense que c'est une vision d'une autre époque. Ça me fait penser à quelque chose que j'entends régulièrement en consultation, à
D'accord.
savoir que ce rêve serait quelque chose que j'aurais vécu dans une vie antérieure. Ça me fait penser à ça. Voilà. Alors, je vais dire quelques mots là-dessus parce qu'il y a des auditeurs peut-être qui se posent la question. Chacun ses croyances hein, par rapport à la réincarnation, aux vies antérieures, etc. Moi, j'avais un de mes profs, un moment, qui parlait des vies intérieures. Et je trouvais ça très intelligent, qui disait que lui, il n'avait pas d'opinion sur le sujet, mais que ce qui était certain, c'est que qu'on ait vécu à une autre époque des choses particulières ou pas, nos ancêtres, de toute façon, les avaient peut-être vécues, et nous étions peut-être porteurs dans notre ADN, dans nos mémoires transgénérationnelles, de souvenirs qui ne nous concernent pas et qui continuent à nous polluer aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il parlait de vie intérieure au lieu de vie antérieure. Et il est tout à fait possible, en effet, quand on parle d'un rêve, quand on vit un rêve, d'être aussi en connexion avec quelque chose que quelqu'un d'autre que nous a vécu. Alors ça, évidemment, il faudrait que j'aie la personne en face de moi pour investiguer un petit peu plus, mais voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. Alors, la personne court, on a massacré ses deux enfants, elle dit dans son
Alors,
message qu'elle n'a pas d'enfant,
c'est ça.
et elle veut atteindre l'eau. Alors, bon, déjà, c'est bien qu'elle ait précisé qu'elle n'a pas d'enfant.
Parce qu'elle sait qu'elle sera sauvée une fois qu'elle aura atteint l'eau.
Elle sait qu'elle sera sauvée une fois qu'elle aura atteint l'eau. La première chose qui me vient, je parlais tout à l'heure du verre d'eau, hein, et je disais que l'eau était un symbole de l'inconscient. Alors, l'eau n'est pas qu'un symbole de l'inconscient. D'ailleurs, dans la langue française, il y a ce mot mère, hein, qui parle de la maman, mais qui parle aussi de l'eau, de l'océan. Et nous venons tous d'un milieu marin, nous venons tous d'un milieu utérin. Et la mer, moi, ça me fait penser à la mer et à l'énergie maternelle. Les questions d'enfants qui sont massacrés, puisque la rêveuse nous dit qu'elle n'a pas d'enfants dans la réalité, alors peut-être que dans une vie antérieure, en effet, ses enfants ont été massacrés, mais je ne veux pas retenir cette piste-là. Elle parle donc d'enfants symboliques. Et les enfants symboliques, ça peut être ou des gens auxquels on tient, des neveux, des nièces, des filleuls, etc. Mais ça peut être aussi des choses qu'on a produites, à savoir de la créativité, un livre. Moi, ça m'arrive de parler de mes bébés quand j'écris. Alors, ça peut
Oui.
être des objets finis, en effet. Des objets artistiques, ça peut être des projets. Un enfant, c'est aussi quelque chose qu'on a construit, qu'on a créé, une entreprise, un projet, une association. Mais ça peut être aussi toutes ces belles choses qui sortent de nous, dont on accouche. Je pense à nos dons, je pense à nos talents. Et ils auraient été massacrés. Voilà. Et il faut atteindre la mer. Alors, moi, la première chose vraiment là qui me vient, c'est que pour arriver à ne plus massacrer soi-même ce qui sort de nous, hein, un enfant, ça sort d'une femme, hein, il s'agit d'une dame là qui nous écrit, il faut devenir une bonne mère pour soi. C'est à ça que je pense, moi. C'est que nous avons parfois des choses qui émergent de nous, que nous massacrons nous-mêmes parce que nous ne les prenons pas au sérieux, parce que nous les sabotons, parce que nous les... Et je ne pense pas forcément à ces écrivains qui écrivent quelque chose et qui tout à coup brûlent tout parce que ça ne leur convient pas, mais simplement peut-être des intuitions, peut-être des projets, des choses qu'on a envie de faire naître et on va pas se sentir à la hauteur, on va avorter. On parle d'ailleurs de projet avorté et la rêveuse sait dans son rêve que si elle atteint l'eau, elle sera sauvée. Moi,
Oui.
je dirais à cette personne qui est en face de moi, et peut-être qu'elle nous écoute, qu'il faut qu'elle arrive à trouver en elle cet espace de gestation, cet espace maternant, qui va lui permettre déjà de se materner elle-même, et puis de créer un espace sécurisé et nourrissant, pour que ce qui sort d'elle ne soit plus massacré, soit protégé. Voilà.
C'est ça. Je cours car il y a eu un massacre. On a massacré mes deux enfants. Alors, symbolique, hein, finalement, de quoi s'agit-il pour elle? Question.
Alors, excusez-moi, puisque vous relisez, on a massacré, hein.
On
Moi,
a
je suis
massacré.
partie
Oui.
sur une lecture qui était... Chaque personnage de notre rêve est un peu nous. Il est possible que cette personne ait eu des projets ou des idéaux ou des rêves qui ont été massacrés par quelqu'un d'autre, hein. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il faut qu'elle atteigne l'eau. Il faut qu'elle atteigne quelque chose qui la concerne elle, hein, qui est un espace en elle, qu'il faut qu'elle retrouve et qui sera un espace où quelque chose va pouvoir se nettoyer, où quelque chose va pouvoir se reconstituer, comme une nouvelle gestation, en fait.
Oui, je cours sur la plage, mais je tombe et je continue à ramper vers la mer. Je continue à ramper vers la mer. Hein. Donc elle a écrit MER, car je sais, je sens qu'une fois dans l'eau, je serai sauvé. Une grosse panique, une idée dans ma tête, je dois atteindre l'eau. Et ensuite elle dit, je me suis réveillé et je n'ai plus pu me rendormir. J'avais peur de revivre ça. Oui, finalement, le on a massacré, le on, c'est impersonnel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est, mais ça peut aussi, effectivement, être elle. Voilà. Alors, dans l'interprétation que vous donnez, alors évidemment, la personne, enfin, j'imagine que c'est plus difficile, ou en tout cas, enfin, moins commode d'interpréter un rêve lorsque la personne n'est pas là, que lorsque vous pouvez échanger avec elle et associer sur des mots.
Alors,
Voilà.
de toute façon, que la personne soit là ou pas, un rêve est toujours la photo à un moment donné d'un processus qui a lieu à l'intérieur de la personne. Et ce qui va m'intéresser, moi, en tant que psychothérapeute, c'est d'aider la personne à se diriger dans son processus. Et à la limite, ce qui se passe autour d'elle a peu d'importance. Ce qui se passe autour d'elle est souvent le reflet, fidèle d'ailleurs, de ce qui se passe en elle. Et finalement, que ça soit quelqu'un d'extérieur qui ait massacré ses rêves ou elle-même, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va être important, c'est comment elle va pouvoir se frayer un chemin à l'intérieur d'elle en changeant son positionnement, en changeant peut-être ses comportements, en changeant sa compréhension de sa vie, pour arriver à retrouver cet espace. Elle dit qu'elle rampe, hein, elle rampe. Il y a peut-être quelque chose aussi à repositionner, à remettre droit là pour arrêter de ramper, hein, arrêter de ramper vers la mer, mais peut-être trouver cet espace en elle où elle va pouvoir se tenir droite et arrêter de ramper, par exemple. Hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le processus, comment la personne peut se positionner différemment pour retrouver finalement son équilibre.
Oui. Là, les rêves d'eau, alors tout à l'heure vous disiez l'eau, ça peut représenter l'inconscient, ça peut aussi représenter alors, quelque chose de chaleureux, de maternel, du terrain, voilà. Et suivant les rêves, lorsque quelqu'un est confronté à son propre rêve et qu'il y a de l'eau dedans, est-ce qu'il y a moyen, si on n'est pas un professionnel de la thérapie ou de l'interprétation des rêves, de privilégier plutôt telle ou telle interprétation de l'eau?
Je peux pas vraiment vous répondre. Je crois que y a plein de livres qui nous donnent qui nous fournissent des dictionnaires de rêves. Eau égale ceci, café égale cela, et tigre égale autre chose. suis très prudente avec ces symboles, même s'il y a des livres de symbolisme qui sont très très intéressants et très utiles. Je crois que la compréhension d'un rêve, c'est quelque chose d'assez intuitif finalement. Quelqu'un m'enverrait un rêve en me disant j'ai rêvé de mon grand-père, je ne pourrais pas aller très très loin avec ça. Là, nous avons, je sais pas, quelques lignes avec une ambiance, avec des émotions qui sont décrites, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qui va planter un décor en fait. Et l'eau, la façon dont on rentre en contact avec elle, va aussi indiquer quelque chose. Quelqu'un peut rêver d'une eau absolument claire, nette, limpide, avec des jolis poissons et être terrorisé, ou à l'inverse, une eau effroyable dans laquelle
Oui.
pourtant il se sent bien. Donc il faut être très prudent. Je ne crois pas qu'on puisse trouver des réponses générales.
Oui, l'eau peut être calme, peut être agitée, profonde, pas profonde, etc.
Et puis chacun a une expérience particulière avec l'eau. Moi, c'est une chose que j'ai apprise quand j'ai passé mon diplôme de sophrologie, où au tout début, on apprend à proposer des relaxations extrêmement, enfin les mêmes pour tout le monde, avec un protocole très, très précis. Et puis à un moment donné, on emmène la personne dans une scène paisible. Et puis, on m'a mise en garde, attention, la scène paisible, ça peut être une mer très douce avec un voilier au loin qui vous emmène vers le calme et l'harmonie. Mais si la personne a vu quelqu'un de cher se noyer sous ses yeux, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut s'assurer d'abord qu'il n'y a pas un souvenir très désagréable lié à l'eau. Hein, quelqu'un qui a peur de l'eau ou qui ne sait pas nager, il vaut mieux pas lui proposer une scène agréable avec un joli voilier sur une mer calme, ça va le terrifier. Donc attention à ça aussi.
Oui, en fait, on est sur un thème dont on a parlé à la dernière émission également, mais qui est très très riche, qui est de comment dirais-je, attention à ne pas tomber dans les interprétations trop trop clés en main de l'eau, c'est forcément ci, le noir ou la chute, c'est forcément ça, pas forcément. Alors, bien qu'il y ait des symboles qui font partie de l'inconscient collectif et qui peuvent avoir des similitudes pour beaucoup de monde, malgré tout, effectivement, l'expérience perso de la personne peut venir par-dessus, en fait, et avoir une signification plus forte que la signification de l'inconscient collectif. Et donc ce rêve, finalement, parle de la, comment dirais-je, du développement que Madame D pourrait faire, par exemple, en termes de protection pour elle-même, ou de, comment dirais-je, par exemple, ses projets, enfin, ses enfants, qui sont, on ne sait pas quoi, alors peut-être des projets, peut-être des œuvres, peut-être des œuvres artistiques, que sais-je, comment faire pour elle, pour que ses œuvres ne soient plus massacrées, et peut-être qu'effectivement, ça. Elle a un chemin à faire en termes d'autoprotection ou d'auto, j'allais dire maternage, enfin bref, d'autoprotection, ouais.
Voilà, et puis atteindre l'eau, c'est aussi se mettre dans le mouvement, hein, parce que l'eau, par définition, elle coule. Alors, le rêve ne nous dit pas si son eau, c'est une flaque, une mare, mais je crois qu'elle
C'est
parle
la
de la
plage, hein, c'est
mer.
la
Elle
plage,
dit,
donc là il
voilà,
s'agit de
elle est
la mer.
sur la plage, c'est la mer. Donc, elle doit atteindre ce grand mouvement de vie, en fait, hein. Elle doit prendre la mer, en fait,
C'est ça.
se mettre dans le courant.
Et une fois dans l'eau, elle sera sauvée. Alors c'est intéressant parce que finalement, si elle doit se mettre dans le courant, ça veut dire que l'eau, dans cette interprétation, pardon-là, ne serait pas un milieu utérin chaleureux et figé, mais plutôt quelque chose qui est, bah, en mouvement, en développement, voilà.
En fait, à partir du moment où on a trouvé en soi cet utérus, et ça c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, les chamans parlent beaucoup de l'utérus des hommes, à partir du moment où on a trouvé en soi cette capacité à se protéger, et donc à protéger ce qui est en nous, ce qui sort de nous, on peut avoir le courage de se jeter à l'eau. Voilà, et je conclurai là-dessus pour Madame D. Prenez vos enfants dans vos bras le corps, dans votre cœur. Et jetez-vous à l'eau en les sécurisant, en les protégeant, et vous serez sauvés.
Ah, c'est une jolie conclusion. Et qui me rappelle ce dont on parlait tout à l'heure, puisque la tonalité de ce rêve, alors comme le dit Madame D, voici mon rêve slash cauchemar, ce qui donc était un rêve désagréable, Et en réalité, même s'il est désagréable, eh bien, ce rêve comporte des pistes de développement et de déploiement pour elle, même si la tonalité n'était pas très agréable. Et donc, nous remercions Madame D de nous avoir envoyé ce rêve, et nous accueillerons d'autres rêves si elle en a d'autres avec plaisir. Alors, là, nous sommes à la moitié de l'émission. Je vous rappelle, pour ceux qui nous prendront en cours de route, que nous sommes avec Anne-Catherine Sabas sur Radio Terrazen pour l'émission mensuelle consacrée aux rêves. Je suis Olivier Ravaille qui anime l'émission avec elle. Je vous rappelle les coordonnées d'Anne-Catherine. Alors, son site internet www.anne-catherine-sabas.com, sur lequel vous trouvez son actualité. Je parlais tout à l'heure de la conférence qu'elle va donner demain et des journées du pardon où elle interviendra la semaine prochaine, plus une foule d'informations sur tout ce qui la concerne, le cabinet de Fontenay-sous-Bois où il y a un certain nombre de thérapeutes qui interviennent, la totalité des livres qu'elle a écrits, des conférences qu'elle a données, etc. Donc, allez faire un tour sur son site. Je vous rappelle également que vous pouvez envoyer vos rêves sur terrazenrêve singulier @outlook.fr, mais aussi sur le site de Radio Terrazen, www.radioterrazen.net, à la rubrique Poser une question. Donc il y a un bouton, vous cliquez dessus et vous pouvez envoyer, écrire le rêve que vous souhaitez interpréter par Anne-Catherine. Je vous propose un autre rêve. Anne-Catherine, bonjour, voici deux rêves que j'ai fait récemment. C'est une dame qui s'appelle Brigitte. Alors, je suis sur un bateau qui est sur une rivière où il n'y a presque pas d'eau. Ah, là, vous voyez, ce soir, on est dans la tonalité aquatique. Je suis sur un bateau qui est sur une rivière où il n'y a presque pas d'eau. À un moment, le bateau doit traverser de l'eau très noire qui serait toxique et pourrait l'abîmer. Il passe sans dégâts et continue jusqu'à arriver à une sorte de bassin où il y a plus d'eau. C'est peut-être la mer. Je vais peut-être le relire une deuxième fois. Je suis sur un bateau qui est sur une rivière où il n'y a presque pas d'eau. À un moment, le bateau doit traverser de l'eau très noire qui serait toxique et pourrait l'abîmer. Il passe sans dégâts et continue jusqu'à arriver à une sorte de bassin où il y a plus d'eau. C'est peut-être la mer.
La mer encore. La mer et en plus là le bassin. Hein? Le bassin,
Mais oui.
formidable le bassin. Surtout quand on doit passer par le bassin. Hein? Alors, il n'y a presque pas d'eau. Moi, ça me fait vraiment penser ça, à une histoire de vie intra-utérine. Hein? La première lecture, il arrive qu'en fin de grossesse, un bébé ait vraiment presque plus d'eau. Et il arrive même que l'eau qui reste dans le placenta soit devenue toxique parce que l'enfant, bah, il a quand même mariné pendant 9 mois. Et il va falloir pourtant qu'il traverse le bassin pour arriver à sortir. Donc, si j'avais Brigitte en face de moi, je lui demanderais si elle sait un peu comment s'est passée la grossesse de sa maman. Ça, c'est une première lecture. Comprenne d'ailleurs ce rêve au niveau littéral ou au niveau symbolique. Il est question de bassin, il est question de traversée, il est question de passer sans dégâts et bon, de
Traverser
rejoindre. Pardon?
de l'eau très noire qui serait toxique et pourrait abîmer le bateau.
Voilà. Il est question d'un passage de toute façon. Alors moi, c'est vrai que c'est un petit peu, hein, c'est un thème que j'aime beaucoup, le passage, l'initiation, la transformation, tout ça, mais c'est ce qu'on vit chaque jour de notre vie, on en est conscient ou pas, mais on passe notre vie à se transformer, à évoluer, à vivre des transmutations internes. Et plus on le fait consciemment, plus on peut le faire joyeusement, même quand certains passages sont difficiles, voire toxiques. Donc là, pour moi, ce rêve parle vraiment d'un passage. Ce qui est intéressant, c'est que la personne parle de cette eau qui serait toxique et qui pourrait abîmer, hein.
Eh
Mais
oui.
en fait, ça se passe sans dégâts. C'est-à-dire qu'il est question de peur. À certains moments de notre vie, pendant certaines transformations, certains passages qui sont un peu exigus, où on a l'impression qu'on va être serré comme pour une naissance, hein, la vie est une succession de naissances, on a peur d'être abîmé, on a l'impression que quelque chose en nous va mourir, on a l'impression d'ailleurs chaque transformation c'est une mort de quelque chose, et pourtant tout est passé sans dégâts, et quand on est arrivé de l'autre côté on se dit ah, ben, finalement c'était que ça. Voilà, donc moi j'inviterais Brigitte à ne pas se laisser impressionner par ses peurs et à faire confiance à son bateau. Hein. Son bateau, c'est son véhicule. On parle du corps comme du véhicule de l'âme. À faire confiance finalement à sa capacité à traverser les embûches, les difficultés et puis peut-être les événements ou les personnes toxiques. Hein. Il y a une mer très très noire. Alors le noir, c'est quoi? Le noir, ça peut être en effet quelque chose de toxique, de sale, de dangereux, du poison, etc. Il y a des choses comme ça qu'on traverse dans notre vie, avec des paroles qui sont empoisonnées, avec des gens qui sont toxiques. Et puis, il y a tout simplement des espaces qui sont noirs, tout simplement parce qu'on ne voit rien. On ne sait pas du tout où on va. On est sur une mer sans phare, en pleine nuit. On ne sait pas du tout où on se dirige. On a peur des écueils, des récifs, etc. Et puis, finalement, quelques jours plus tard, on s'aperçoit qu'on a passé cette épreuve et qu'on est intact. Voilà. Il me semble qu'à la fin, elle dit, c'est peut-être la mer. Alors là, c'est...
Oui, c'est-à-dire qu'il passe sans dégâts, donc finalement le bateau est passé dans cette eau très noire et toxique, mais qui en fait ne l'a pas abîmé. Il passe sans dégâts et continue jusqu'à arriver à une sorte de bassin où il y a plus d'eau. C'est peut-être la mer. Donc voilà, tout d'un coup une étendue, plus d'eau, plus d'eau.
Voilà.
Voilà.
Alors, c'est une sorte de bassin. Un bassin, c'est quand même un espace clos, hein. C'est peut-être la mer. La mer, c'est pas un bassin. Alors, sauf une petite mer intérieure. Mais ce mot de bassin, qui là encore me fait penser à une naissance, un bassin, c'est un endroit où on va rester, mais pas indéfiniment, parce qu'à un moment donné, on aura besoin de plus large. Donc l'impression que j'ai, c'est que Brigitte traverse, ou a traversé quelque chose qui était inquiétant, effrayant, où elle ne savait pas trop comment se diriger, mais qu'il y a certainement autre chose qui l'attend encore, parce qu'elle arrive à un bassin. Peut-être un espace où elle va pouvoir reprendre des forces, un espace où elle va pouvoir tout simplement vérifier qu'elle est intacte, vérifier qu'elle est équipée pour toutes les traversées qui lui restent à vivre, comme une escale en fait. Ça me fait penser un peu à une escale. J'ai envie de lui dire, faites confiance à votre embarcation, faites-vous confiance. La traversée s'est bien passée, il y en aura d'autres et vous êtes tout à fait équipé pour ça.
J'ai l'impression, lorsque vous interprétez Anne-Catherine, que vous intuitivement vous êtes très très centré sur le mouvement des rêves, j'allais dire plus que sur les détails. Je ne dis pas que vous n'êtes pas assez centré sur les détails, je dis que j'entends la manière dont vous en parlez, et c'est comme si vous faites très attention au début et à la fin, et que vous regardez quel est le mouvement qui s'est passé entre les deux, sans forcément couper les cheveux en quatre au passage.
Absolument.
Vous avez pensé quelque chose de kinesthésique, enfin de. Voilà.
En fait, oui, tout à fait, c'est intéressant. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Mais en fait, quand j'ai un rêve en face de moi, c'est comme quand j'ai un patient en face de moi, c'est comme s'il y avait, je l'ai déjà dit, ça il me semble, je crois, dans cette émission, c'est comme s'il y avait un esprit, l'esprit du rêve ou l'esprit d'une séance. Quelqu'un arrive à un moment donné pour une séance, quelqu'un arrive pour qu'on parle de son rêve, et il a voulu évidemment nous proposer quelque chose, mais il y a aussi cette demande qui n'est pas forcément formulée, qui est que son inconscient arrive avec quelque chose, qu'il s'agit d'accompagner. Et en nous offrant ce processus, là encore, et je pense à la naissance, hein, les psychothérapeutes sont un peu des sages-femmes, on essaie de saisir, de comprendre cette espèce d'entité-là qui est complètement vivante et d'accompagner en effet ces mouvements. Il y a dans une séance de psychothérapie un début avec des choses qui sont formulées et puis petit à petit, au fil des minutes, on va voir des points se dégager, on va voir des thèmes se dégager et on comprend à un moment donné que cette séance, c'était un espace où tel processus devait advenir. Et pour un rêve, je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu semblable. À mesure d'ailleurs que je m'entends interpréter le rêve, parce qu'au départ, je ne sais pas ce que je veux dire, je découvre ces rêves avec vous là maintenant, je m'aperçois qu'il y a des mots qui viennent résonner les uns avec les autres. Je me dis, tiens, là, il y a un truc, il y a un écho qui se fait. Et des choses qui émergent, en fait, qui se mettent en lumière. L'idée étant, là encore, que si quelqu'un prend la peine de nous envoyer un rêve et de demander à ce qu'on le décrypte, c'est qu'il y a une demande dont la personne n'a pas forcément conscience et qui est d'accompagner un mouvement, d'aller appuyer à un moment donné sur un bouton. On me dit parfois, ben oui, j'ai entendu votre interprétation, vous avez prononcé ce mot et c'est ce mot qui, en gros, est venu appuyer sur le bouton.
Et alors, les auditeurs ont le son, mais n'ont pas l'image. Moi, je l'ai. Et je voyais Anne-Catherine, justement, pendant qu'elle était en train d'expliquer, j'ai prononcé le mot de kinesthésique, comme ça, un peu au ressenti. Et Anne-Catherine faisait beaucoup de gestes pour accompagner ce qu'elle vient de dire sur le fait qu'elle accompagne des mouvements. Et effectivement, vous avez une interprétation qui est très, très. Très incarné, très voilà, c'est pas un télo du tout. On a l'impression que vous cherchez quelque chose qui est de l'ordre du sens, du mouvement de la vie. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement de vie là-dedans, en fait?
Ouais, voilà. Oui, c'est un peu ça, je pense, oui, tout à fait.
Alors, je vous rappelle que nous
et
sommes.
Là, on est en plus avec des rêves qui parlent d'eau, donc je cherche les poissons. D'ailleurs, il y a régulièrement des gens qui amènent des rêves magnifiques où ils sont devant la mer et il y a des poissons. Il faut qu'ils voient des poissons qui sortent. Ces poissons, c'est comme des trésors. C'est des forces vives, en fait.
Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Terra Zen avec Anne-Catherine Sabas pour notre émission, son émission mensuelle sur les rêves. Alors je vous rappelle, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour consulter Anne-Catherine à son cabinet de psychothérapie, elle reçoit sur rendez-vous, je vous rappelle son portable, 06 08 94 81 46. Et le site internet anne-catherine-sabas.com où vous trouvez toutes les informations utiles et l'actualité qui la concerne. Alors, peut-être, après être rentré très loin dans le vif du sujet d'une manière très, très, très incarnée, comme vous l'avez fait, peut-être on peut revenir à un peu plus de légèreté, au sens où il y a des questions de spectateurs, enfin d'auditeurs, qui portent sur des rêves qui sont un peu plus génériques. Alors, même si j'ai entendu que vous n'aimez pas trop poser des étiquettes sur j'ai rêvé d'un machin, que ça veut dire, je vous en propose quand même quelques-unes si vous en êtes d'accord. Par exemple, un auditeur nous dit j'ai rêvé que j'ai rencontré une célébrité. Alors évidemment, voilà, c'est très court, mais est-ce que vous pouvez dire quelque chose de ce fragment?
Alors il y a plein de choses à dire là-dessus. Déjà, la première question, c'est quelle est la célébrité et quel rapport on a avec elle? Si on rêve d'un homme politique qu'on déteste, ça n'aura pas la même signification que si on rêve de son chanteur préféré, évidemment. Quelle est la question à se poser aussi, c'est quel est le rapport qu'on entretient avec la célébrité? Il y a des gens.
Au lieu de la célébrité,
en général,
fait d'être célèbre.
Voilà, le fait d'être célèbre. Alors, avec la célébrité précise, comme
la personne.
Je viens de le dire, la personne. Hein, c'est où est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas, qui est-elle, et voilà. Et puis avec le fait d'être célèbre, en effet, il y a des gens qui par exemple jalousent les célébrités, hein. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont qui jalousent ou qui ont vraiment un problème à admettre que certaines personnes puissent être riches, célèbres, belles, en bonne santé, etc. Et puis d'autres qui pensent que certaines méritent d'être célèbres ou que ça peut être aussi le signe qu'elles sont compétentes en quelque chose. Donc ça aussi, ça demande à être reçu pour pouvoir fournir une interprétation. Dans l'optique de ce que je vous dis pardon, régulièrement, à savoir notre rêve parle de nous et des rapports que les différentes parties de nous entretiennent entre elles, une question qu'on peut se poser, c'est quelle est en nous la partie qui est célèbre dans le sens qui mérite d'être connue et qu'on doit rencontrer. Hein. Nous avons en nous des talents, nous avons en nous des qualités, nous avons en nous des expertises, des dons, qui ne sont pas forcément d'ailleurs extrêmement spectaculaires, mais qui méritent que nous les prenions en compte. C'est d'ailleurs la troisième ou quatrième fois que je dis ça aujourd'hui, ça fait peut-être partie du mouvement de cette émission aussi, hein, de dire faites attention à ce qui émane de vous, à ce qui est en vous, prenez-le au sérieux. Allez rencontrer la célébrité en vous, allez rencontrer cette partie de vous qui doit se montrer au grand jour. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une célébrité finalement? C'est quelqu'un qu'on voit, c'est quelqu'un qui passe à la télé, c'est quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue, c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer d'une façon ou d'une autre. Alors certains se font remarquer pour des choses absolument pas utiles, d'autres se font remarquer parce qu'ils envoient des hommes à la guerre, ça c'est encore un autre débat. Mais rêver de quelqu'un qui est célèbre, ça peut être une incitation à aller rencontrer en nous ces parties qui demandent à être mises en lumière parce qu'elles le méritent et parce qu'elles ont besoin qu'on les prenne au sérieux. Voilà, les rencontres que nous faisons peuvent être, dans nos rêves, je parle, peuvent être des incitations à aller rencontrer, accueillir certaines parties de nous pour les intégrer dans notre paysage intérieur. Voilà.
Où là, on parle du mot célébrer dans un sens qui n'est pas forcément la célébrité qu'on comprend comme étant une célébrité médiatique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui connaissent, on voit la télé, dans les journaux, etc. Mais le mot célébrer, qui veut dire rendre hommage par le biais d'une cérémonie ou d'un rituel, etc., qui est en effet public, mais pas forcément, c'est un peu comme ça que j'entendais comment dirais-je, la coloration que vous donniez dans un second temps au mot célébrité, qui est fait de célébrer quelque chose qu'on a en nous, ce qui ne veut pas forcément dire passer à la télé.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que là on est parti un peu sur l'hypothèse qu'il y avait un mouvement de rêve, un mouvement de séance et donc un mouvement peut-être de cette émission. Et cet après-midi, j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs personnes où il a été question de quelque chose de récurrent qui était de reconnaître qui nous étions, de reconnaître ces belles choses en nous
C'est ça.
et donc du coup de pouvoir accepter de les faire reconnaître dans le verbe célébrer. Et c'est bien que vous fassiez le rapprochement entre célébrité et célébrer. Il y a quelque chose, moi, que je vis comme extrêmement joyeux. C'est en effet rendre hommage, mais c'est quelque chose qui incite à la joie et à l'épanouissement.
Alors, là, tout ça me fait penser au fait que l'inconscient, qui se manifeste dans les rêves, en quelque sorte joue avec le langage, puisque finalement, lorsque la personne nous envoie ces quelques mots qui est rencontrer une célébrité, la célébrité peut parler du fait de célébrer. Le bassin de tout à l'heure peut faire penser au bassin, peut-être du bassin maternel. La mère MER peut faire penser à la mère MERE. Les enfants sont des enfants réels ou symboliques. Et on entend bien là que lorsque l'inconscient nous envoie ce qui est, c'est une image, un rêve, enfin c'est une image, une scène, etc., mais il n'y a pas forcément de mots pendant le rêve. Et ensuite, on le traduit, enfin on a nous qui rêvons, le traduisons avec nos mots. Et au passage, lorsqu'on prononce un des mots pour décrire par exemple le bassin, hop, on a charrié sans s'en rendre compte deux, trois, quatre autres significations possibles que peut-être l'inconscient nous avait planqué dans un coin avec beaucoup d'humour. Alors je ne sais plus si c'était Lacan qui, dans les thérapeutes, qui accordait tellement d'importance à l'inconscient qui, dit-il, est structuré comme un langage, et ça me fait un peu penser à ça, c'est-à-dire qu'en fait les simples mots peuvent être dans les interprétations rêves des carrefours où la voie à emprunter pour une interprétation riche n'est pas forcément celle à laquelle la personne a pensé en fait.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de formidable avec les rêves, c'est que quelqu'un qui va avoir une vision extérieure va en général vous donner une vision à laquelle vous n'avez pas pensé. Et c'est valable pour les psychothérapeutes, pardon, qui travaillent avec les rêves. Hein. Moi, j'ai besoin de l'aide d'autrui pour analyser mes rêves parce qu'il y a des grilles de lecture que je n'ai pas concernant mes propres névroses.
Je reprends sur le sujet du jeu qu'on peut faire avec le sens des mots. Le rêve, le deuxième rêve dont on a parlé tout à l'heure, où la dame dit, en parlant de son bateau, il passe sans dégâts et il continue d'arriver à une sorte de bassin où il y a plus d'eau, c'est peut-être la mer. Évidemment, même sans être professionnel de l'interprétation, le bassin, ça peut être le bassin de l'eau, ça peut être le bassin de la mer, et ensuite il arrive, c'est peut-être la mer ou c'est peut-être la mer. Alors là, je le redis parce que les interprétations, en quelque sorte, la diversité des interprétations saute aux oreilles. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en effet, un mot peut être un carrefour d'interprétation. Et l'histoire de la célébrité, c'est ça, célébrité médiatique ou célébrée, ou peut-être d'autres choses. Et ce qui voudrait dire aussi que nous rêvons dans notre langue. Enfin, en quelque sorte, en tout cas, on raconte le rêve dans notre langue, et du coup, imaginons par exemple qu'un voilà, un français rêve, et alors je prends un langage très différent, je parle un hongrois par exemple, rêve, j'allais dire exactement la même chose. Alors je sais que c'est un peu compliqué mon histoire, mais admettons, la manière dont il le raconterait, probablement, vu qu'il poserait des mots qui en hongrois la mère se dit peut-être pas se prononce peut-être pas de la même manière que la mère maternelle, et donc du coup, suivant la langue du rêveur, ça autorise ou non d'autres types d'interprétations.
Alors, ce que vous dites est intéressant. Je me posais la question d'ailleurs durant cette émission en vous écoutant. Je me demandais, je me suis souvent demandé d'ailleurs enfin, j'ai souvent été persuadée que ça serait passionnant justement de maîtriser une langue suffisamment pour pouvoir analyser les rêves dans une autre langue. Mais il y a quelque chose qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est que notre inconscient sait aussi avant nous qui va interpréter le rêve. Moi, j'ai eu dans ma vie de patiente affaire à des psychothérapeutes ou des psychanalystes de diverses obédiences. Et quand j'avais une superviseuse jungienne à une époque, je lui amenais des rêves jungiens. Et
Que pour les
Jung, Freud, plusieurs courants psychanalytiques.
D'accord.
Et quand j'avais un psychanalyste freudien, je lui amenais des rêves freudiens.
Et pour nos auditeurs, en deux mots, un rêve freudien, ce serait quoi? Enfin, bon.
Je
Bon,
préfère
d'accord.
éluder la question parce
Ok,
que là,
d'accord.
on s'éloigne un petit peu du
D'accord,
sujet.
ok.
En gros, c'est que notre rêve, en effet, la façon dont on va le dire, dont on va le parler, raconte déjà quelque chose, mais la façon dont il va être interprété aussi. Je me souviens à une époque où j'avais une superviseuse qui était allemande, qui parlait parfaitement le français avec un léger accent, où à deux reprises, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à deux reprises, il m'est arrivé quelque chose, une synchronicité, enfin un concours de circonstances qui a fait que voilà, je suis arrivée à ma séance avec un événement particulier, une fois. Et puis l'autre chose, c'était une somatisation absolument pas grave, mais qui m'avait interpellée et qui rejoignait une partie du corps qui, dans la langue allemande, avait une signification symbolique qui n'avait rien à voir avec le français. Et j'aurais eu un psy français ou espagnol à l'époque qui serait certainement passé à côté du truc. Et elle m'a dit, vous savez, ça, dans notre langue, ça veut dire ça. Et j'ai été absolument ébahie parce que c'était exactement ça. Et c'est à se demander si mon inconscient n'avait pas créé ce symptôme-là en sachant que cette personne-là qui maîtrisait l'allemand serait capable de me l'interpréter d'une manière qui ferait sens pour moi. Donc c'est passionnant tout ça.
Oui, on peut effectivement imaginer que l'inconscient envoie des images dont la description va avoir des synonymes en quelque sorte. Je pense à amer en français, M-E-R, M-A-I-R-E, M-E-R-E, et d'autres peut-être que je n'ai pas en tête tout de suite, où l'inconscient en quelque sorte a prévu d'avance que dans la langue du rêveur, ces pistes-là pourraient être interprétées et que s'il a rêvé de mer M-A-I-R-E, il s'agit peut-être de mer M-E-R, et que si le rêveur était anglais, peut-être il aurait fait un rêve différent. Ah, vaste sujet, mais ce qui est sûr, c'est que en effet, le langage est au cœur du non seulement de l'interprétation du rêve, mais aussi du déroulement du rêve. Alors, nous avons encore un peu plus de 5 minutes. Alors, peut-être, on ne va pas tenter une autre interprétation, parce que comme vous êtes prolixe et que c'est très intéressant, on risque de dépasser un peu le temps. Alors, on parle un peu de votre actualité?
Allons-y.
C'est parti.
Oui, alors je voulais vous parler, ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière, de cet événement dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure, à savoir les journées du pardon. Je vous invite à aller voir sur le site www.journeesdupardon.fr et vous découvrirez vous-même de quoi il est question. C'est donc un événement qui a lieu la semaine prochaine où des intervenants du monde entier sont rassemblés pour parler avec, je crois que le programme affiche complet, il y a plus de 200 personnes inscrites,
C'est
hein.
ça, oui.
Donc pour parler du pardon, sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je voulais prendre quelques minutes pour en parler, c'est que ce travail qui a été initié à la base à partir d'un rituel qui a été donné par Miguel Ruiz, l'auteur des quatre accords toltèques, à Olivier Clerc, l'organisateur des Journées du Pardon, ce rituel qui a été donné il y a très longtemps et qui a d'abord donné un livre, puis un travail sur les Journées du Pardon, les cercles du pardon, est en train de se répandre dans le monde entier avec une demande. Parce que dans plusieurs endroits de la planète, il y a des demandes d'aller œuvrer et poser des actes simples, symboliques et très puissants pour la réconciliation et la paix. Et voilà, et c'est de ça dont je voulais parler. Donc, je serai donc aux Journées du Pardon pour proposer une conférence sur le thème de se pardonner à soi-même, le sous-titre étant Guérir le rapport à soi-même pour contribuer à guérir le monde. Et c'est là que Radio TerraZen est intéressée. Je ferai cette conférence sur place, mais bien sûr, tout le monde ne peut pas être là-bas. Donc, je proposerai lors de notre prochaine émission sur Radio TerraZen, à savoir le premier mardi du mois de novembre, je crois qu'il s'agit du 3 novembre à 21h30 comme d'habitude, la même conférence. Alors, elle sera évidemment pas tout à fait la même puisque je serai face à mon micro et pas face à 250 personnes, mais je serai certainement aussi riche et nourrie de toutes ces belles choses qui auront été échangées pendant ces journées que j'aurai le plaisir de partager avec vous. Et je vous demande d'avance voilà, de faire connaître tout ce travail qui est fait autour du pardon, qui n'est qu'une porte d'entrée pour aller travailler à la réconciliation de chacun avec lui-même et de chacun avec les autres. Voilà, donc ça aura lieu le mardi 3 novembre sur Radio TerraZen à 21h30. Et 2 semaines plus tard, donc le troisième mardi, le 17, nous reparlerons de vos rêves encore, comme ce soir. Donc vous pouvez toujours nous envoyer, là encore, vos rêves si vous souhaitez que nous les analysions.
Alors, nous, les auditeurs qui sont concernés, je leur demande de nous pardonner. On n'a pas le temps d'analyser tous les rêves qui nous sont envoyés. Donc là, on en avait plus que de quoi faire 1 heure d'émission. Donc voilà, je nous excuse par avance pour les auditeurs qui n'ont pas encore vu leurs rêves analysés par Anne-Catherine. Ça viendra. Et je vous propose donc à tous de continuer à nous envoyer vos rêves. Je vous redonne l'adresse et nous conclurons sur cette information. C'est donc le site Radio TerraZen, Radio TerraZen, tout attaché au singulier, point net, à la rubrique Poser une question, ou sinon sur TerraZen Rêve au singulier tout attaché, at outlook.fr. Je vous propose que nous concluions cette émission. On arrive au terme. Anne-Catherine?
Voilà, 2 mots encore, j'ai toujours des choses à dire, pardon, sur une conférence donc, qui aura lieu demain. Vous trouvez les infos sur mon site. Elle aura lieu dans Paris, dans le 15e arrondissement. Le thème sera la souffrance au travail. Plus précisément, travailler heureux dans une société en crise, c'est possible, point d'interrogation. Je crois que oui, ça passe probablement par certains changements de positionnement, mais je crois que nous n'avons pas le choix. Et voilà, donc j'espère vous voir nombreux demain aussi. Et voilà pour les actualités. C'était comme d'habitude un plaisir d'être avec vous sur Radio Terra Zen. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous font confiance. Je crois que nous allons nous arrêter là pour ce soir.
Absolument, et je nous donne rendez-vous mardi 3 novembre et mardi 17 novembre sur notre antenne. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Bonsoir Anne-Catherine.